ta colère. J'ai vu tant de désirs vibrer sous la poussière, trop fort pour périr, noyé dans ta fatigue, une force abandonnée sur ton souffle ludique qui n'attend qu'à céder.
Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Bon samedi. C'est Mélina. J'ai le plaisir de vous retrouver dans Jazz, jeunes et aînés solidaires. La solidarité intergénérationnelle et interculturelle est une force. Ben, nous le savons maintenant, hein. On le répète depuis plusieurs samedis. Nous avons le bonheur d'être avec vous le samedi de 11h à 12h sur Cheese 94.3. Eh bien, comme vous le savez, notre émission Jeunes et Aînés Solidaires porte le même nom que notre association parascolaire reconnue par l'Université Laval pour renforcer des liens intergénérationnels entre donc étudiants de l'Université Laval et des aînés de la capitale nationale avec donc notre apport à toutes et à tous. Alors, nos principaux objectifs, tisser des liens entre des étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale à travers notre émission radio, donc ici à Cheese 94.3, tous les samedis de 11h à midi, créer un cercle de discussion intergénérationnelle et de diversité ethnoculturelle. On veut permettre aux étudiants qui travaillent en lien, enfin à travers leurs recherches, qu'ils s'intéressent particulièrement aux aînés, aux personnes âgées de 60 ans et plus. Et donc, on vous met en valeur. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez un projet dans cet ordre-là ou si tout simplement les relations intergénérationnelles, bien, ça vous tente. Et si vous voulez effectivement faire, non pas ajouter simplement une ligne sur un CV, mais partager une véritable expérience de vie, eh bien, bienvenue à Jazz, bienvenue à Jeunes et Aînés Solidaires. Vous pouvez nous adresser un courriel à jazz@asso.ulaval.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux Jeunes et Aînés Solidaires, Jazz, J-A-S. Alors aujourd'hui, j'ai un programme un petit peu spécial pour vous parce que j'ai eu le bonheur et la chance aussi plutôt, hein, dans le cadre de l'axe 2 du congrès annuel des géographes du Québec pour cette édition 2022, j'ai eu donc cette occasion à travers les géographes face aux défis du 21e siècle que nous pourrons vous offrir un extrait de cette conférence que j'ai eu le bonheur donc d'animer, de présenter, de proposer il y a une semaine de cela. Donc vous pourrez ainsi découvrir quelques perspectives sur le rôle des géographes et de la géographie dans l'analyse, la compréhension et la prise en compte des enjeux du 21e siècle. Et moi j'animais donc une thématique les aînés face au changement climatique, défis et solutions pour les aider à s'adapter. Alors, pour traiter cette thématique qui se déroulait, donc, on peut le dire, hein, à des milliers de kilomètres, mais en marge quand même, de la COP27 qui se déroulait en Égypte, eh bien, était invité à cette session spéciale en commodal des collègues donc, du Québec, notamment avec la participation de Benoît Lalonde, qui est responsable de travaux au département géographie à l'université Laval, mais aussi des collègues africains en ligne depuis le continent avec nous, donc avec la participation de Rémi Akpovi, qui lui est béninois et docteur en droit de l'environnement, expert en gestion des catastrophes et des situations d'urgence. Aziz Sodoré, qui est maître de conférences en géographie et en aménagement, chef du département de géographie de l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Et enfin, Eric Sreux, qui est docteur en géographie et en cartographie à l'université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous étions en ligne, c'était... On a pu enregistrer aussi à travers la plateforme Zoom, parce que on n'a pas pris de chance. Hein. On s'est dit peut-être qu'il y aura aussi des problèmes de communication, de connexion surtout. Donc on a enregistré quelques-unes de ces interventions. D'ailleurs, les trois interventions de nos collègues en Afrique, on les a interviewées via Zoom. Ils ont fait leur présentation effectivement via Zoom. On a enregistré tout ça et puis on a diffusé cela. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, les personnes qui ont pu assister à ça, au cœur des sciences, donc à l'UQAM, la semaine dernière, ont beaucoup apprécié. Et je voulais vous faire partager ça. Voilà, les aînés face au changement climatique, défis et solutions pour les aider à s'adapter. Ben, j'ai le plaisir de partager aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, un extrait de cette conférence avec vous. Ben, j'espère que ça vous plaira.
Comme vous le savez tous, plusieurs experts s'accordent à dire que le vieillissement de la population et les changements climatiques font partie des plus grands défis de l'humanité et font partie des plus grands défis de demain. En cette décennie internationale du bien vieillir ensemble 2021-2030, initiée par l'OMS, et en marge de la COP27, qui a pour objectif de porter la voix des leaders africains afin de mobiliser plus de soutien international pour un rétablissement écologique de l'Afrique, selon la Commission, comme le dit la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous, notre thématique vient mettre l'accent sur l'un des groupes les plus vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques, les personnes âgées de 60 ans et plus. Alors, la littérature, très abondante, démontre sans ambiguïté l'impact des effets néfastes des changements climatiques sur la santé des populations, particulièrement sur les personnes les plus vulnérables, comme les aînés. On le sait, les habitants de chaque zone géographique doivent faire face à leurs propres défis, et les pays en voie de développement ne sont pas en reste sur les solutions à apporter pour diminuer les impacts négatifs de la dégradation du climat. Donc, nonobstant la multiplication des études, nous pensons que les recherches sur cette problématique sont loin d'être épuisées. Donc voyons ensemble ce qui a été fait et surtout ce qui reste à faire. Je suis Mélina Seymour, étudiante au doctorat en sciences géographiques à l'Université Laval. J'ai le privilège de vous proposer et d'animer cette séance thématique au cœur des sciences à l'UQAM. Dans le cadre de mes travaux de recherche, je m'intéresse à l'adaptation des personnes âgées au changement climatique en milieu urbain. Et mes terrains d'études sont les villes de Québec, dans la province du Québec au Canada, et de Bobo-Dioulasso, dans la province d'Ouette au Burkina Faso. L'objectif général de ma recherche est de documenter, d'analyser, d'améliorer les dispositifs d'adaptation des changements climatiques auprès des personnes âgées de 60 ans et plus à Québec et à Bobo-Dioulasso. J'ai la chance d'être encadré par les professeurs Marie-Hélène Van Der Missen et Nathalie Barrette, toutes deux professeurs à l'Université Laval au département géographique. Pour traiter cette thématique, les aînés face au changement climatique, défis et solutions pour les aider à s'adapter, bien que nous soyons donc au Québec, il me semblait important de dépasser nos frontières en marge de la COP27 qui se tient actuellement en Égypte. On sait que les conclusions finales ne seront pas si aisées. Je remercie le RGQ, le regroupement des géographes du Québec, d'avoir accepté cette session spéciale en commandale avec des collègues du Québec, notamment avec la participation de Benoît Lalonde, professionnel de recherche au département de géographie à l'Université Laval, mais aussi avec la participation d'autres collègues, Rémi Akpovi, qui est docteur en droit de l'environnement, expert en gestion des catastrophes et en situation d'urgence. Nous avons également au Burkina Faso le docteur Aziz Sodoré, maître de conférence en géographie et aménagement, chef du département de géographie de l'université Joseph Kizerbo. Et nous avons également le docteur Sreux, qui est donc géographe et cartographe à l'université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire.
Alors on va maintenant écouter Benoît Lalonde qui va nous parler de l'atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques. On va l'écouter, juste un extrait, pour voir ce que contenait sa communication.
Donc en gros, c'est un projet de recherche qui était dirigé par Nathalie Barrette, qui est professeure au département de géographie de l'Université Laval. C'est un projet, là, c'est pas juste moi qui ai mené ça. Il y avait quand même 7 professeurs au département, 12 étudiants et étudiantes, 3 professionnels de recherche des départements de géographie et géomatique de l'Université Laval. En gros, c'est un projet de recherche qui était initié à la demande de l'Institut national de santé publique, qui avait des fonds qui provenaient du Fonds vert, du plan d'action 2013-2020 d'adaptation au changement climatique. Un projet qui est mené en collaboration avec différents ministères, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires municipales, l'Union des municipalités du Québec, donc je l'ai dit aussi, là, l'Institut national de santé publique. C'était aussi chapeauté là, scientifiquement par le consortium Uranus. Voilà pour ça. Donc, mini mise en contexte, je pense que je ne conviendrai pas ou je n'ai rien à prendre ici à personne en disant que au Québec, ben, les conséquences des vagues de chaleur ou encore des inondations ou encore de d'autres aléas climatiques ben, elles peuvent varier grandement d'une région à l'autre et même d'une municipalité à l'autre. Hein. Donc, si je prends ici les vagues de chaleur, par exemple, Environnement Canada ben, définit celle-ci comme, de par l'humidité ou encore la chaleur comme étant importante lorsqu'on prévoit des températures extérieures de plus de 30 degrés, des valeurs humidex supérieures à 40. Donc, au Québec, les organismes de santé publique utilisent des avertissements de vagues de chaleur et d'humidité qui proviennent d'Environnement Canada, mais aussi des seuils de chaleur extrêmes aux fins d'intervention ici à plus fine échelle, hein, à l'échelle du territoire socio-sanitaire, si on peut penser aux régions socio-sanitaires. Donc, ces seuils de chaleur extrêmes-là, ben, ils sont déterminés notamment en fonction de la mortalité. Hein. Donc, il y a des analyses qui ont été menées là, en 1980 et 2005 qui visait ici à voir comment l'augmentation de la chaleur peut avoir un effet sur la surmortalité. Par exemple, dans la grande région de Montréal, ben, une période dite de chaleur intense est définie comme étant un moment où le maximum des températures atteint 33 degrés et un minimum de 20 degrés. Et ça, sur une période de 3 jours. Ailleurs au Québec, ces seuils-là sont tout un peu plus bas lorsqu'on se déplace vers l'est ou encore vers le nord de la province. Et ça, c'est vraiment relié au fait que la population résidente dans les régions n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques ou les mêmes seuils de tolérance. En gros, là, si je reprends la question des vagues de chaleur, puis ici, dans le cadre de ma présentation, je focus davantage sur cet aléa-là qui est davantage lié à la thématique des aînés, selon moi. Là. Donc, les vagues de chaleur, comme on peut l'imaginer, influent fortement sur le système de santé, le système préhospitalier, hein, qui doit offrir des services adéquats au moment qui est jugé opportun. Hein. En cas de canicule, ben, dans la plupart des cas, l'inconfort qui est causé par la chaleur ben, peut être contrôlé par des mesures individuelles comme la prise de bain, la baignade, la climatisation, encore l'hydratation. Cependant, des organismes comme Info Santé ou encore le 911 Urgence Santé, ben, lorsqu'il y a une canicule ou une vague de chaleur, ben, on peut voir le nombre d'augmenter, le, le nombre d'appels a augmenté significativement durant ces périodes-là. Hein, des appels en raison de détresse respiratoire ou d'inconfort majeur lié à la santé. Donc, par exemple, si on retourne un an et demi en arrière, là, il y a eu une vague de chaleur extrême qui a touché la Colombie-Britannique à l'été 2021. Les appels au 911 auraient doublé durant la période entre le 24 juin et le 1er juillet. Donc, vraiment dans le pic de chaleur qui est survenu en Colombie-Britannique. Dans certains cas, puis ici, même l'exemple de Colombie-Britannique le montre, on peut voir une augmentation vraiment significative des transports préhospitaliers et l'hospitalisation dans la population. Durant ces périodes-là aussi, hein, on voit une augmentation non seulement de l'interpellation des services d'urgence, mais aussi des services d'urgence. Donc, on parle de policiers, pompiers, ambulanciers, bien, peuvent être appelés à aller visiter des gens à domicile pour faire de la prévention, pour veiller à ce que tout le monde est là. Ou encore les municipalités, les organisations locales, bien, peuvent déployer sur le terrain des halles climatisées où les gens peuvent aller se rafraîchir. Donc, en gros, l'amplitude des impacts sur la santé, la sécurité des communautés, quand on pense aux aléas climatiques, bien, elle résulte d'une interaction entre, d'un côté, les caractéristiques de l'aléa, hein, quel type d'aléa, sa durée, son intensité, mais aussi les caractéristiques des personnes qui sont touchées. Donc, ici, ce qu'on définit comme étant la vulnérabilité. Donc, la littérature scientifique dit que il y a certains sous-groupes de la population qui sont davantage impactés, hein, qui subissent davantage de préjudice ou de contre-coup lorsqu'il survient un aléa climatique. Notamment les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont socio-économiquement défavorisées, qui sont moins scolarisées, qui souffrent de maladies chroniques comme les maladies comme le diabète, la schizophrénie ou encore les maladies des reins. Les gens qui n'ont pas nécessairement accès à la climatisation à la maison ou encore qui vivent dans des quartiers qui sont moins bien pourvus en termes d'espace droit.
Ben, on va dire bonjour à Michelot, hein? Michelot, bienvenue, 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 Michelot. On profite de cette conférence. Moi, en t'attendant, j'ai dit, ben tiens, on va passer ça et puis on va continuer comme ça. Ben, est-ce que tu savais que les géographes avaient justement cette vision maintenant où on parle de toutes ces thématiques, etc. Moi, quand je rencontre les gens me disent, mais oui, mais je suis impressionné par les thématiques que vous abordez. Ben, ça évolue.
Ça bon, évolue, je ne savais pas. Merci beaucoup, Mélida. C'est un plaisir d'être là. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, bien sûr. Donc, écoutez, c'est une très bonne idée d'aborder la question des liens intergénérationnels à partir du champ de la géographie et des changements climatiques, puisque ce sont des phénomènes, le changement climatique, ce sont des phénomènes qui ont des impacts directs sur la vie des aînés et qui nous préoccupent aussi au niveau de JAS. Je suis un aîné solidaire, donc c'est une très bonne idée de revenir sur les idées de cette conférence. Et pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister ou suivre cette conférence, ben, c'est l'occasion de revenir sur le débat. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos commentaires, des questions, etc., des sujets qu'on aurait pu approfondir à partir de ces réflexions. Voilà, donc c'est une très bonne idée, Mélina, donc de revenir sur cette question.
Merci beaucoup, Michelot. On va poursuivre avec la présentation d'Éric Sreux, docteur Éric Sreux, qui, lui, intervenait depuis la Côte d'Ivoire. Il est géographe et cartographe à l'université Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire.
Bonjour, Mélina. Bonjour tous les géographes et participants de cette conférence. Alors, moi, je suis docteur Sreux Éric, géographe et cartographe. Je suis membre de deux laboratoires, un laboratoire de géographie, l'AVSE, et un laboratoire de médecine de l'Université Alassane Ouattara, Boaké, Côte d'Ivoire. Alors, le thème de ma présentation s'intitule « La cartographie, un outil complémentaire pour la prise en charge des personnes aînées, en parenthèse, sans-pain, en ethnie baoulée, ethnie populaire du groupe Akan du centre de la Côte d'Ivoire. dans un contexte de changement climatique. Alors, il faut d'abord présenter le plan, hein, de notre étude, de notre travail. D'abord, nous avons le contexte, ensuite, en second point, présenter le projet par lequel nous arrivons à aider les personnes aidées dans le cadre avec la cartographie. Ensuite, présenter le constat, sinon que la situation réelle des personnes âgées par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu de recherche, action sur le terrain. En quatrième position, présenter le projet SIG cartographique dénommé CARTOSI ou cartographie de psychiatrie, hein, au service de la prise en charge des aînés. Après, en cinquième position, montrer les acquis du projet et enfin les perspectives du projet envers les aînés. Alors, par rapport au contexte du changement climatique, il faut dire que de façon directe ou indirecte, le changement climatique a un effet sur la santé des personnes âgées qui sont considérées comme une frange vulnérable à l'échelle mondiale. Ce projet de recherche-action dénommé Samentacom, Santé mentale communautaire en Côte d'Ivoire, a débuté en 2018, dans la région de Bekel, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Alors, ce projet avait pour objectif, sinon a toujours pour objectif, de pouvoir pallier tous les problèmes d'accès à l'offre de soins et aussi la planification des services de soins en santé mentale en Côte d'Ivoire, tout en cadrant avec les objectifs du MHGAP, de l'OMS, pour une santé mentale inclusive et intégrée dans la communauté. Alors, aujourd'hui, grâce à ce projet, on arrive à prendre en charge plus de 3 077 patients en Côte d'Ivoire. Alors, ce projet, il faut le dire, a été fortement impacté par la cartographie. D'abord en 2018, on a commencé dans les centres de santé primaires, comme le recommande l'OMS, pour l'intégration et la formation du personnel soignant. Et cette carte ici nous présente les 16 centres de santé primaires qui prennent en charge les malades mentaux dans toute la Côte d'Ivoire. Et actuellement, nous sommes en partenariat avec MSF Ouaka, qui font du boulot aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, à partir de cette cartographie, nous avons aussi débuté un projet de cartographie nationale en 2018 et qui a abouti en 2020. En 2020, où nous avons fait la cartographie nationale des structures non conventionnelles en santé mentale en Côte d'Ivoire. Alors, il s'agit ici des structures qui prennent en charge de façon parallèle par rapport au système sanitaire ivoirien des personnes qui souffrent de pathologies mentales ou d'épilepsie. Et donc, au total, ce sont 541 structures non conventionnelles. Voilà. Quand on parle de non conventionnelles, ce sont des camps de prière, les centres de guérison traditionnels et les centres Kya pour les musulmans. Donc, ces centres-là abritent la majeure partie des malades mentaux en Côte d'Ivoire. Alors, au niveau des personnes âgées, qui constituent ici notre cible, en Côte d'Ivoire, on note une augmentation de 63,4% de la frange de la population âgée, des personnes âgées de plus de 60 ans, entre 1988 et 2007, soit une augmentation de 5%, comme on le voit ici sur la figure 1, à travers la courbe d'évolution, qui a un coefficient directeur, hein, positif, qui montre ici la croissance positive de la population de plus de 60 ans. En Côte d'Ivoire, précisément dans la région locale de Boaké et environ, en pays baoulé, puisque c'est là que c'est le cœur de notre projet, les personnes âgées ont des appellations bien spécifiques. De façon générale, on appelle un vieux Srankpin, et les femmes âgées, on peut dire les vieilles femmes, on les appelle Blackpin et Yaswakpin pour les hommes âgés. Voilà, signification littérale ici Le bla, c'est pour la femme, et pain, c'est pour tout ce qui est ancien, tout ce qui dure. Et yassoua, c'est l'homme, voilà, et pain, c'est quelque chose qui a duré, donc littéralement homme âgé. Donc il y a des appellations hein, qui accompagnent et qui nous permettent aussi de pouvoir situer dans un contexte bien précis la position, sinon que la place des personnes âgées. Et par rapport à notre projet, les différentes démarches que nous devons aussi mener pour pouvoir assurer les prises en charge médicales. Alors, c'est sans étonnement, en Afrique, la grande partie des personnes âgées n'ont pas accès aux soins, parmi les personnes retraitées, voilà, qui représentent aussi une faible tranche de la population âgée. Voilà, donc selon l'OMS, il y a des maladies qui surviennent à un certain âge de la vie, surtout pour les personnes âgées, qui sont plus enclins à beaucoup, beaucoup de maladies, comme les troubles auditifs, mais principalement aussi les problèmes de dépression et de démence, qui sont aussi des problèmes de santé courants hein, chez ces personnes âgées. Donc, nous, à travers ce projet, puisque nous sommes beaucoup basés sur la santé mentale, bien vrai que nous prenons en charge voilà, toutes les comorbidités. Donc, ici, on voit à travers les différentes figures, par rapport à notre population prise en charge, la part des personnes âgées, voilà, qui a continué à augmenter de 2018 à 2021, comme on le voit sur la figure 2, pour dire que les personnes âgées continuent à pouvoir s'intégrer dans notre politique, sinon que notre planification de prise en charge médicale. Donc, les personnes, les familles nous contactent et rentrent dans le cadre du projet Samentacom afin de pouvoir faire bénéficier de ces soins-là pour un bien-être de ces personnes âgées qui ne bénéficient pas hein, d'une assurance concernant leur catégorie sociale. Donc, la majorité des aînés, dans le cadre de notre projet, hein, prise en charge, représentent seulement que 1,63% hein, des patients voilà, retraités. Les patients retraités représentent plutôt 1,63% parmi nos patients. Et c'est ceux-là qui bénéficient d'au moins d'une assurance maladie. Alors que les autres, voilà, ne bénéficient pas d'assurance maladie. Donc, nous, à travers le projet, nous menons des actions de prise en charge, y compris pour les soins hein, psychiatriques, mais aussi pour les comorbidités, comme le HTA, l'UCER et puis le diabète et autres maladies. Donc, dans les prises en charge, voilà, ils ont des problèmes à se déplacer pour venir dans les centres de santé que nous avons, que nous travaillons, avec qui nous travaillons. Et donc, nous menons des actions de terrain, nous faisons des soins rapprochés, comme on va le voir ici.
Alors, nous allons poursuivre la présentation donc du docteur Sreux dans un instant. Nous faisons juste une petite pause et nous revenons juste après pour la suite.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997. Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeules et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Schiste 94.3.
Vous me connaissez sur les ondes de Schiste pour mon esprit d'analyse. Un commentateur d'actualité politique.
Ça reste que la possibilité qu'il soit minoritaire à ce gouvernement reste très, très probable, en fait.
Mais là, Félix Bouffard, le journaliste, est pas mal écœuré. C'est pourquoi je reviens cette année avec une autre formule. Une formule qui met en valeur des chroniqueurs de tout horizon.
Hey, c'est quand tu commences à parler de moi?
Et je serai accompagné cette fois de Virginie, que j'ai été capable de sortir de son lab. C'est les scientifiques, faut pas trop leur en demander.
Regarde Science Vacances qui parle, toi. En tout cas, les lundis matins de 9 à 10, il n'y en aura pas de facile.
Il n'y en aura pas de facile à Schiste 94.3.
Le gala alternatif de la musique indépendante du Québec, c'est le 27 novembre prochain au Théâtre Plaza à Montréal. T'aimerais entendre les exclamations de joie des gagnants et gagnantes et les électrisantes performances musicales sans avoir à te déplacer? Mon ami, Schiste 94.3 est là pour toi. Syntonise nos ondes sur ton Ghetto Blaster ou sur le web le dimanche 27 novembre dès 20h. Mets-toi beau, mets-toi belle, mets-toi chicken swell. Le Gamic, c'est ton gala préféré, animé par moi-même, Émilie Rioux. À dimanche!
Vous êtes sur Schiste 94.3 dans Jazz à Jeunes et Aînés Solidaires. Ben aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale puisque nous parlons d'adaptation des aînés au changement climatique, défis et solutions pour les aider à s'adapter à partir donc du congrès annuel des géographes du Québec. J'ai eu ce privilège d'animer une thématique donc qui portait sur l'adaptation au changement climatique, défis et solutions pour les aînés. Aider à s'adapter. Ben c'est dans l'axe 2 du congrès annuel des géographes du Québec en 2022, donc cette année, évidemment, la semaine dernière, plus précisément, les géographes face aux défis du 21e siècle que nous vous offrons donc depuis tout à l'heure, 11h, ben l'extrait de cette conférence scientifique. Donc, pour traiter cette thématique qui se déroulait donc en marge de la COP 27 en Égypte, hein, ben, était invité à cette session spéciale en comodale. C'était la seule session spéciale en comodale durant ce congrès qui s'est déroulé au cœur des sciences à l'UQAM la semaine dernière. Alors, il y avait donc des collègues du Québec, notamment avec la participation de Benoît Lalande, responsable de travaux au département de géographie à l'Université Laval. Pour ceux qui ont écouté l'émission dès le début, ben, il a fait son intervention, on a mis un extrait de tout à l'heure. Et puis là, vous étiez en train d'écouter juste avant notre pause. Vous avez pu écouter le docteur Éric Sreux, docteur en géographie et cartographe à l'Université Laval, Alassane Ouattara, à l'Université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc il nous a fait donc sa présentation, on va l'écouter encore puisque nous avons eu cette petite pause. Et puis ensuite, nous écouterons Aziz Sodoré, maître de conférence en géographie et aménagement, chef du département de géographie à l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Et puis nous terminerons avec la présentation, la communication de Rémi Akpovi du Bénin, donc docteur en droit de l'environnement, expert en gestion des catastrophes et situations d'urgence. Donc ce sont des extraits de leur communication dans le cadre de cet axe 2 du congrès annuel des géographes du Québec qui s'est tenu la semaine dernière à l'UQAM. On poursuit avec donc la suite de la présentation et de la communication du docteur Sreux.
Des personnes âgées à travers les différentes photos, voilà, qui souffrent de problèmes mentaux. Et comme on le disait précédemment, qui sont parfois isolés hein, des familles ou bien de l'ambiance sociale. Et donc, nous, notre travail, c'est d'aller localiser ces personnes-là à travers les agents de santé communautaire, pouvoir les localiser et intervenir en cas besoin et faire des plannings pour les visites médicales et pour le suivi de soins adaptés aux problèmes de santé. Et donc ici, on voit ici qu'elles vivent dans des conditions précaires, parfois retirées dans une pièce insalubre, délaissées par leurs proches, leurs parents, qui sont parfois partis en ville ou bien à l'aventure, ou même dans le village, mais qui mettent ces personnes âgées-là hein, de côté. Donc, ils sont victimes d'un abandon, soit et aussi d'une isolation socio-sanitaire, comme on le voit ici à travers ces images, Et donc, depuis 2021, nous avons initié un micro-projet, voilà, avec l'aide des agents de santé communautaire pour recenser et géolocaliser, hein, ces patients, ces personnes âgées-là, qui ont des